bonjour à ceux qui sont dans le studio de Radio Campus Tours, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, trois pour être précis. Nous avons Louise Dorazio, bonjour à vous.
Bonjour.
Nous avions Agnès Thorens, nous avons toujours Agnès Thorens,
bonjour
à vous.
Bonjour.
Et Solène, qui est une habituée de Radio Campus. Salut Solène.
Salut Nathanaël.
Alors si vous êtes là tous les trois, c'est pour parler cinéma, et pas n'importe quel cinéma, puisque on va parler du cinéma italien aujourd'hui dans Sorte, puisque le festival Viva il Cinema commence le 14 mars jusqu'au 18 pour être précis, et vous êtes là pour en parler avec nous. Alors on va peut-être commencer par les présentations, puisque j'ai oublié de dire qui vous êtes. Alors Louise Dorazio, vous êtes président carrément du festival, et Agnès Thorens, vous êtes membre du conseil d'administration. Alors est-ce que vous pouvez nous préciser votre rôle plus largement?
Alors, je vais commencer. Je suis, en effet, membre du conseil d'administration, mais je suis aussi directrice de la Cinémathèque de Tours, qui est partenaire du festival. Et au sein du festival, je m'occupe plus particulièrement de la programmation avec Louis, et également de la communication et des relations avec la mairie, puisque je dépends aussi de la mairie.
Voilà. Puis moi, donc, je fais mon métier de président dans la mesure du possible, et je m'occupe également donc de la programmation, direction artistique du festival.
Alors on va y revenir, c'est la cinquième édition du festival. Est-ce que vous êtes président depuis ces cinq ans-là?
Non, je suis président depuis l'an passé, parce que l'an passé nous avons décidé de nous réunir autour d'une association. Nous avons créé une association qui s'appelle Viva il Cinema, mais qui a pris la suite de l'entente de cinq structures qui sont à l'origine du festival en 2014. Ces cinq structures sont bien sûr la Cinémathèque de Tours, l'association Henri Langlois, l'université François Rabelais, Cineof et l'association Dante Alighieri. Et pour des raisons de lisibilité et en même temps de faciliter un peu les échanges, notamment dans les demandes de subventions, nous avons créé une association. Les membres de ces différentes structures ont décidé de créer une association qui s'appelle Viva il Cinema.
En tout cas, vous êtes évidemment tous les deux fans de cinéma italien, sinon vous ne serez pas à ces postes-là.
C'est la question piège, mais
en ce qui me concerne, moi je suis fan de cinéma, évidemment intéressé au cinéma italien, mais en fait l'origine aussi du festival, c'est qu'on a vu à la Cinémathèque avec Louis, justement, où on avait programmé des films italiens, mais plutôt des films de patrimoine, qu'on avait vraiment un public, et c'est ce constat qui nous a donné envie d'aller plus loin et de proposer au Tourangeau, outre du cinéma de patrimoine qu'on passe à la Cinémathèque, mais du cinéma italien d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça. Mais au départ, enfin en ce qui me concerne, je suis fan de cinéma. Peut-être que Louis est plus fan de cinéma italien que moi.
Non, je suis quand même fan de cinéma, puisque bon, j'ai été quand même pendant très longtemps enseignant de cinéma. Enfin, j'ai enseigné le cinéma. Mais comme mon nom l'indique, je m'appelle donc Louis Dorazio. Je suis d'origine italienne et donc de culture italienne. Et donc j'ai une sensibilité un peu particulière par rapport à la culture italienne. Et le cinéma est une donnée de la culture, quel que soit le pays d'ailleurs.
Justement, ce cinéma italien, on va en parler. On reviendra évidemment plus largement sur le déroulé du festival. Mais est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de ce cinéma-là, et quelles sont finalement les particularités du cinéma transalpin vis-à-vis du cinéma français, et puis plus généralement vis-à-vis du cinéma européen, voire américain, ou en tout cas mondial?
Donc le cinéma italien a une particularité, effectivement, c'est que, si vous voulez, le cinéma italien est né tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec la libération de l'Italie, c'est-à-dire à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Le cinéma comme moyen de créer une sorte de culture identitaire de l'Italie, créer une sorte de conscience nationale dans le cinéma et dans la société. Et donc de jouer un peu le rôle qu'a pu jouer, par exemple, en France, la littérature au XIXe siècle, qui a construit cette conscience nationale. Le cinéma italien, lui, c'est au moment où l'Italie va connaître pour la première fois de son histoire une démocratie. C'est le cinéma qui va jouer ce rôle essentiel au point de vue culturel, mais aussi au point de vue politique. Et donc là, on a affaire à un cinéma qui est très ancré dans la réalité. Particularité, tous les réalisateurs italiens, quels qu'ils soient, ont tous commencé par le documentaire.
Vous faites référence aussi au néo-réalisme italien, ce qu'on appelle ça. Alors, chose plus étonnante, c'est qu'après cette période de néo-réalisme, qui suit finalement la Seconde Guerre mondiale, il est apparu aussi en Italie un néo-réalisme un peu plus, un peu plus classique ou un peu plus doux, qui s'appelle néo-réalisme rose.
Oui, rose.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme et si vous pouvez éventuellement nous l'expliquer?
Alors, ce terme a été un peu dévalorisant par rapport au tenant du néo-réalisme, des origines. Mais quand on regarde cela avec le recul, ce néo-réalisme rose, en fait, ça va devenir ce qu'on appelle la comédie à l'italienne. Mmh. Et la comédie à l'italienne, c'est une façon d'aborder la réalité italienne en tenant compte de l'évolution de cette société. Le néo-réalisme est entièrement lié à la situation économique et sociale de l'Italie après la guerre, c'est-à-dire un pays complètement détruit, un pays qui connaît une situation économique désastreuse. Pensons aux voleurs de bicyclettes, pensons à tous ces films qui montrent la misère. Mais bien sûr, l'Italie va connaître une période très faste qu'on appelle le miracle à l'italienne, c'est-à-dire que l'on va avoir une société qui va évoluer. Et la comédie à l'italienne est bien sûr un type de cinéma qui décrit toujours la réalité italienne, qui montre les changements de l'Italie, mais avec un regard ironique, parce que au fur et à mesure que l'Italie évolue, elle s'éloigne des idéaux de la libération après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà.
Alors, vous avez parlé de comédie, justement, et ce qui est intéressant aussi dans le cinéma italien, c'est qu'il est très éclectique, finalement, et qu'il propose toutes sortes de d'œuvres et de films différents. Mmh. Et je pense notamment au western, finalement, avec Sergio Leone. Je pas la bonne prononciation, probablement, mais en tout cas, c'est lui qui a finalement redonné un coup de pouce au western américain qui était un peu en perte de vitesse et qui, pour donner des exemples, La Brute et le Truand ou Il était une fois dans l'Ouest, voilà, c'est vraiment des films cultes du western, donc ça prouve aussi la richesse de ce cinéma italien.
Mm-hmm. Bah oui, Agnès, justement, à la Cinémathèque, tu as passé récemment un film de Sergio Leone. Enfin,
c'était lequel d'ailleurs?
Le bon, le brut et le truand.
Non, c'était pas ça.
Ah non, c'était pour.
Il en a fait.
Plus. C'était et pour quelques dollars de plus.
Ouais,
j'ai eu un trou là. Mais oui, bien sûr, il a vraiment revisité ce genre western qui était un peu en perte de vitesse aux États-Unis, enfin qui intéressait plus grand monde, et il l'a modernisé. Bien sûr, ouais, c'était un moment important dans le renouveau un peu du cinéma italien, mais d'un cinéma italien qui est quand même très tourné vers les États-Unis, puisqu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de réalisateurs italiens qui sont partis s'installer aux États-Unis et qui ont fait du cinéma là-bas, qui se sont installés là-bas.
Qui se sont inspirés aussi de ce que faisaient les États-Unis.
On l'a vu, le réalisateur de Call Me By Your Name, il est italien, enfin celui qui a eu l'Oscar de la meilleure adaptation cette nuit
à
Hollywood.
Luca Guadagnino, oui. Bien sûr. Oui, là, il y aurait tout un chapitre à ouvrir sur les réalisateurs italo-américains. Il y en a pas mal. Mais aussi, le cinéma italien a connu, il faut savoir, pendant toute cette période faste, la comédie italienne qui correspond au boom économique, au miracle économique italien. On peut même dater sa fin avec des événements tragiques. L'assassinat d'Aldo Moro, enfin, la crise économique, le choc pétrolier 73, etc. Et qui correspond un peu au déclin du cinéma italien. Pendant toute la période très faste, c'est un cinéma qui est le cinéma le plus inventif, le cinéma le plus prolifique qui existe. Mmh. Et bien sûr, c'est un cinéma où il y a des moyens économiques de plus en plus importants, et c'est un cinéma qui va couvrir tous les genres, qui va reprendre tous les genres du cinéma. Et certains films, on va tourner à Cinecittà, qui est Hollywood sur Tibre.
D'ailleurs, dans cette période faste, finalement, du cinéma italien, il y a plusieurs réalisateurs qui sortent du lot, notamment Fellini ou encore Antonioni. Est-ce que, pour vous, ces deux réalisateurs sont un peu les piliers ou les symboles de cette période-là, assez faste, qui s'étend finalement, grosso modo, des années 50 aux années 70, pour faire... Voilà.
Oui, il faudrait peut-être rajouter Visconti quand même.
Oui,
et sans doute plein d'autres aussi.
Voilà.
Mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, alors là, c'est une parenthèse qui n'a pas vraiment à voir avec Viva il Cinema, mais Antonioni, vous en parlez. Au mois d'avril, on passe trois films à la Cinémathèque, trois films d'Antonioni. On rend hommage à Antonioni, qui est évidemment un très grand réalisateur Italien, mais on passe aussi, pendant Viva le cinéma, on passe un film de... Alors c'est Pietrangeli.
Pietrangeli,
oui. Oui, dans le cadre d'un hommage à Stefania Sandrelli.
Mmh. Voilà. Oui.
Donc on a programmé deux films en hommage à cette grande actrice. Donc je la connaissais bien de Pietrangeli, et puis Le conformiste de Bertolucci.
Bertolucci, voilà. Oui. Non, non, mais c'est, il y a toute une, il y a les pères, les grands réalisateurs, ceux que l'on connaît, qui ont pu faire des films et qui donnent aujourd'hui, effectivement, ces réalisateurs étant disparus, donnent l'impression que le cinéma italien n'est plus ce qu'il était, etc. C'est vrai qu'il est très difficile de succéder à une telle génération. Néanmoins, tous les réalisateurs, et parmi ceux que nous invitons, même les jeunes réalisateurs, et c'est pour cela que nous faisons un prix, nous attribuons deux prix à des films, des premiers ou seconds longs métrages, tous ces jeunes réalisateurs s'inscrivent dans la lignée des grands réalisateurs d'autrefois, et on peut dire peut-être que ceux que nous recevons aujourd'hui seront les grands réalisateurs de demain. Bien sûr, si les moyens économiques permettent, parce que le cinéma est aussi une économie, si les moyens économiques permettent au cinéma de retrouver ce faste d'antan.
Alors justement, on va revenir sur le festival, et comme vous l'avez dit, votre but c'est finalement d'essayer de montrer et de promouvoir les réalisateurs italiens de demain. Première question, quels sont selon vous ces réalisateurs-là qui feront le cinéma italien de demain? Est-ce que vous avez des noms à me citer, ou alors... carrément même des films à...
Eh bien déjà tous les films qui sont en compétition, donc il y a 5 films qui sont en compétition, donc 5 réalisateurs. Alors Il Padre d'Italia de Fabio Molo, Easy de Andrea Magnani, Il Figli della Notte de Andrea De Sica, petit-fils de Vittorio De Sica.
D'accord.
Les autres...
Il più grande sogno, ah, oui, de Michele Vannucci.
Et puis le cinquième, c'est Une guerre per amor, la guerre par amour de Pierfrancesco
Di Liberto.
Ah, voilà.
Pif, voilà, avec l'accent. Hein. Pierfrancesco, qui est un très 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 grand homme de télévision, animateur de télévision, homme de théâtre. C'est quelqu'un qui a très complet, et on a cette chance inouïe de pouvoir le venir, ce qui a pour effet d'enthousiasmer tous les gens italophiles ou italophones qui suivent l'actualité culturelle italienne. Voilà.
Donc voilà, déjà, ces cinq-là, nous aussi, on les a choisis, c'est parce qu'on croit en eux. Enfin, on trouve que leurs films sont vraiment intéressants et que, voilà, on croit en eux. Mais il y en a d'autres. Il y a les deux réalisateurs de Sicilian Ghost Story. C'est vraiment aussi deux réalisateurs que l'on va suivre.
Oui, Fabio Grassadonia et Antonio Piazza, qui sont deux réalisateurs siciliens qui ont fait un film absolument admirable à partir d'un fait réel et dramatique, mais traité avec une grande poésie, un sens, ouais, de l'imaginaire extraordinaire.
Et puis moi je citerai aussi Eduardo Winspear, ou Winspear si on parle avec l'accent anglais, parce qu'en fait il est d'un père anglais et d'une mère italienne. On avait montré il y a quelques années, la deuxième ou troisième édition, on avait montré en soirée d'ouverture À la grâce de Dieu, je ne sais pas si vous l'aviez vu, et voilà, donc ça c'est son dernier film, que l'on va montrer et qui s'appelle La vita in commune, donc la vie ensemble. Ouais, est-ce que c'est important? Je crois que ce thème de la vie ensemble est peut-être un des thèmes qui devrait ressortir de cette programmation, si tu es d'accord, Louis, avec...
Absolument, oui. Le film de Winspear, effectivement, qui est une sorte d'apologue, de comédie, disons un peu... poétique, enfin bon, qui nous donne une image un peu idéalisée, qui est une utopie, qui met en avant l'utopie. Cette utopie qui peut devenir réalité, et ça on va le voir avec, par exemple, 3 documentaires qui portent sur la même notion, puisque La vita in comune de Winspear met en scène un maire poète qui pense que la poésie peut finalement sauver les gens. Et c'est peut-être par la poésie qu'on sauvera du désespoir, puisque l'histoire se passe dans un pays qui s'appelle Disperata, ce qui veut dire désespéré. Ah, vous voyez donc l'histoire. Et là, on a 3 documentaires qui mettent en scène des maires de communes. Et là, on est vraiment dans la réalité et non plus dans la fiction. Des maires qui essayent de promouvoir finalement une autre figure du maire dans cette Italie du Sud parfois corrompu, parfois misérable, avec tous les défauts, enfin tous les stéréotypes qu'on peut accoler à l'Italie du Sud. Et vous avez donc un maire, par exemple, de la ville de dans la banlieue de Naples, d'Ercolano, qui essaye de rétablir l'état de droit. C'est Prove di Stato de Leonardo di Costanzo. C'est par exemple un paese di Calabria. C'est raconte le récit du maire d'une petite ville de Calabre qui se trouve dans le détroit de Messine, à Riace, qui va accueillir des Kurdes dans un village pour reconstruire du lien social et du lien économique. Et c'est une histoire absolument vraie, véridique. Et puis il y a Obwelling, ou la Risalita delle Acque Profonde. C'est un maire bouddhiste dans une commune de Messine, en Sicile, etc. Et qui, eux, tous ces trois, essayent de réaliser, faire en sorte que l'utopie devienne réalité.
En tout cas, cinq films qui seront en compétition. Par rapport au prix, voilà, vous en avez parlé tout à l'heure, il y aura le prix de la ville de Tours et aussi le prix du jeune public. Alors oui. Expliquez-nous finalement pourquoi ces deux prix-là et pourquoi avoir instauré ce prix jeune public. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions?
Alors, on l'avait mis en place l'année dernière, ce prix jeune public, ça nous paraissait important, que justement, c'est le cinéma de demain ou le cinéma d'aujourd'hui, donc il fallait qu'on s'adresse, ça nous paraissait important de nous adresser à des jeunes. Et on a donc un jury composé de 8 jeunes, 8, alors 5 lycéens et 3 apprentis qui vont donc décerner ce prix. Et puis le deuxième prix, donc c'est le prix de la ville de Tours. On aimerait bien, mais on ne l'a pas fait encore cette année, mais je pense que peut-être l'année prochaine, on mettra aussi en place un prix du public. Mais bon, c'est une organisation à mettre en place et bon, voilà, le festival grandit petit à petit, mais quand même d'une manière importante tous les ans. Donc on ne veut pas non plus se brûler et on veut aller se brûler les ailes, on veut aller doucement. Donc voilà, une prochaine étape sera d'organiser le prix du public.
Et qui décernera, dis donc, j'ai un peu du mal aujourd'hui, le prix de la ville de Tours? Est-ce que vous avez déjà les noms?
Alors, on a les noms du jury. On a le jury. Alors, c'est un jury qui est composé de professionnels et d'un représentant de la mairie de Tours. Mais sinon, dans les membres du jury, la présidente du jury est Marie-Aude Carès, la directrice de l'école d'art et de design de Tours. Et puis on a aussi une représentante de l'ACC, qui est l'association des cinémas du centre, un rédacteur en chef de Radici, une revue franco-italienne. Et puis, tu veux peut-être présenter l'italien?
Oui, Antonio Maraldi. Antonio Maraldi, qui est un critique de cinéma, spécialiste de Antonio Pietrangeli, dont on va passer un des films. Hein. Antonio Pietrangeli est un réalisateur très important, peut-être méconnu en France, mais très très important. C'est le premier réalisateur qui va mettre les femmes au premier plan, hein, si vous voulez. Et donc, qui est en même temps directeur du Centro Cinema Città di Cesena, je le dis en italien, hein, mais c'est le centre de cinéma de la ville de Cesena qui se trouve non loin de Bologne. Et c'est par lui, grâce à lui, que nous avons obtenu toutes les photos pour rendre hommage à Stefania Sandrelli dans l'exposition qui aura lieu à l'Hôtel Gouin.
Oui, voilà, parce qu'il y aura aussi d'autres événements autour, exposition, puis d'autres films, vous l'avez évoqué tout à l'heure, au-delà des films en compétition. On va y revenir en deuxième partie d'émission, c'est l'heure déjà de la première pause musicale. On va s'écouter un titre de Gonzague, ça s'appelle Forest, et on reviendra pour un quiz aussi, c'est la tradition de l'émission Sortez, un quiz que Solène a parfaitement exécuté, a parfaitement répondu tout à l'heure.
J'ai eu quelques erreurs.
Oui, mais t'étais pas loin quand même sur la plupart des questions. En tout cas, on écoute ce titre de musique et on revient tout de suite après. We'll be right back. La suite de l'émission Sortez, c'est maintenant sur Radio Campus Tour, et une émission qui est consacrée aujourd'hui au cinéma italien, puisque commencera le 14 mars le festival Viva il Cinema, voilà la cinquième édition même de ce festival italien Made in Tour, voilà cinéma pour tous les passionnés, ils devront participer, en tout cas se rendre à ce festival. Et pour parler de tout ça avec nous, nous avons Agnès Thorin et Louise Dorazio qui sont toujours là dans le studio, et Solène qui n'a pas bougé et qui ne donnera pas les réponses au quiz.
Non.
Pas vrai ? Puisque ouais, Solène a fait le quiz juste avant l'émission.
J'ai testé pour vous.
Avec beaucoup de réussite d'ailleurs. Et c'est l'heure de poser ces petites questions-là à nos deux invités. Alors, est-ce que vous êtes prêts ?
Oui,
oui.
Alors,
comme à l'école.
Voilà, c'est un peu un quiz scolaire.
Terrible.
C'est un quiz scolaire, je dois l'admettre, mais bon, il faut faire 5 sur 5. Voilà,
on a des bons points.
Voilà, exactement. En quelle année a été réalisé le film Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini ?
J'irais 48 peut-être.
45.
45, exactement. Et d'ailleurs, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Le cinéma italien est né finalement à la fin de la guerre, en fait.
Bien sûr.
En 1945. Deuxième question. Bon, ça commence bien, en tout cas, le quiz. Hein.
Je m'étais trompé. Moi, j'avoue, j'avais dit 46.
Quel film italien a été déclaré en 1958 comme étant le troisième meilleur film de tous les temps derrière Le Cuirassé Potemkin et La Ruée vers l'or ? 1958. Troisième.
Et le film a été cité dans la première partie de l'émission.
De tous les temps.
Petit indice.
Effectivement. Et vous l'avez, je sais plus qui de vous.
Ouais, c'est
vous.
Ouais.
Oui, exactement. Vittorio De Sica. Le voleur de bicyclette.
1948.
Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez le prononcer en italien le titre du film du coup?
Il ladro di bicicletta.
Voilà.
C'est poétique.
Ouais, c'est tout de suite plus classe, effectivement. En tout cas, bonne réponse. 2 sur 2. Troisième question. Quelle est la palme d'or du Festival de Cannes 1967 ? Si je dis ça, c'est que, évidemment, c'est un film, ou en tout cas un réalisateur italien qui a obtenu la palme d'or.
Ah, je me demande si c'est pas L'Arbre aux sabots. Ah non, c'est bien après. Non, c'est 76.
Agnès, tu l'as prononcé tout à l'heure.
Peut-être que le film, le nom du film a été prononcé tout à l'heure.
Ah,
ou en tout cas, le nom du réalisateur, ça c'est sûr. 67.
67 ?
Visconti ?
Non.
Non.
Non, 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 non.
Je sais pas. J'ai aucune idée.
Oui, j'étais trompé. Enfin, j'avais pas trouvé non plus.
Moi, c'est une question d'année.
Il passera à la cinémathèque du coup à la fin de l'année, comme tu l'as dit.
Antonioni, alors c'est un film d'Antonioni.
Ouais, effectivement. Alors lequel maintenant? L'un de ses plus, en tout cas, connu, reconnu.
Alors, les titres, j'ai du mal avec les titres. Moi, ça me vient
pas. C'est des années.
C'est un titre en anglais.
Oui, c'est. Blow Up.
Oui, Blow Up, effectivement. 1967, Palme d'Or au Festival de Cannes.
Oui.
Blow Up. En parlant de Festival de Cannes, combien de récompenses au total a obtenu l'Italie à Cannes ? De Palme d'Or, en fait. Bon, à l'époque, on n'appelait pas, sur une certaine période, on n'appelait pas ça la Palme d'Or.
Ouais.
On appelait ça Grand Prix International de Cannes.
Ouais.
Mais grosso modo,
j'ai aucune idée.
Non, non, je tiens par comptabilité.
Idée.
Beaucoup, enfin, pas mal.
Oui, beaucoup.
Pas mal.
De près.
Est-ce que vous avez une estimation à peu près ?
Non, alors là, je suis très mauvais dans les chiffres.
Il y a eu combien de festivals de Cannes ?
De 39 à 46 et de 39 pardon 70. Et de 46 à aujourd'hui en fait.
46 aujourd'hui.
En continu, donc ça
fait plus de 70.
Et non, moins une quinzaine, non, enfin une dizaine.
Vous êtes pas loin.
Ah oui,
c'est entre 10 et 15.
Ouais,
ah oui, d'accord.
C'est 12 en fait,
12, oui,
pour
d'accord.
être précis. Et chose étonnante, c'est le troisième pays en termes de récompenses derrière les États-Unis et la France. Les États-Unis 22 palmes d'or et la France 13.
Mm-hmm.
Donc le cinéma italien vient en troisième position avec 12 récompenses. Ce qui prouve aussi finalement la richesse et la qualité surtout du cinéma italien. Dernière question. Un peu plus actuel cette fois. Quel film de Nanni Moretti retrace en 2006 l'histoire de Silvio Berlusconi ?
Le Caïman,
ouais. Voilà, tout simplement. Le Caïman qui a obtenu le prix David di Donatello de meilleur film en 2006. C'est un prix italien, là.
Oui, c'est l'équivalent du César.
D'accord, ok.
Ouais,
voilà. Et ben voilà, c'était pas si terrible.
Non, voilà.
Ouais, vous avez bien répondu là.
Meilleur que toi, Solène.
Ouais, ouais, largement, c'est clair.
Bon, en tout cas, on va revenir sur le festival Viva il Cinema qui commence donc le 14 mars, pardon. Est-ce qu'on peut parler des invités que vous allez avoir autour de ce cinéma? Allez-y, je vous laisse la parole.
Le plus grand de nos invités, peut-être, c'est Paolo Taviani. On est très fiers de l'accueillir à Tours. Il viendra présenter, en plus, c'est vraiment une belle chose. Il viendra présenter leur dernier film, le film qu'il a tourné avec son frère Vittorio, comme tous les films qu'ils ont tournés. Ils ont tourné tous leurs films ensemble. Donc voilà, ça, on est très fiers et très heureux à l'idée d'accueillir Paolo Taviani.
D'ailleurs, ils ont eu la Palme d'Or en 1977.
Padre Padrone.
Et justement, puisqu'on fait le lien avec ce qui a été dit, Le Premier Homme est un film qui revient sur la résistance, et c'est très beau de la part de ces réalisateurs qui ont parcouru les plus belles heures du cinéma italien, que finalement leur dernier film. J'aimerais bien qu'ils en fassent un autre. Enfin, bon, soyons réalistes aussi. Leur dernier film soit un film qui revient sur l'origine, la résistance.
Et c'est un film qui n'est pas du tout passé à Tours.
Il sortira qu'au mois de juin.
Ok, il n'est pas encore sorti du tout.
C'est une avant-première. Il y a beaucoup d'avant-premières. On a plusieurs avant-premières, d'ailleurs.
Qui sortira sous le nom d'Une affaire personnelle. C'est l'adaptation d'un roman très célèbre d'un écrivain résistant, Beppe Fenoglio. Mis très longtemps à adapter, pardon.
Donc voilà, Paolo Taviani, on est vraiment fiers, mais évidemment il y a tous les autres, puisqu'il y a déjà presque tous les réalisateurs des films en compétition qui vont venir ou qui vont être présentés. Il y en a un qui va être présenté par son scénariste, donc c'est intéressant aussi de recevoir un scénariste. Mmh. Et puis Louis, tu veux peut-être continuer avec les autres invités.
Bon, parmi les autres invités, il y a alors c'est lié au cinéma italien, mais il n'est pas italien, c'est Ernest Pignon. Mmh. Ernest quand même qui vient à propos d'un documentaire qui a été tourné sur les collages qu'il a pu faire à l'occasion du 40e anniversaire de l'assassinat de Pasolini. Donc, on voit Ernest Pignon Ernest qui va coller une affiche, comme il le fait d'habitude, si vous voulez, collage un peu sauvage, qui montre un portrait plan-pied, c'est-à-dire à l'échelle 1, de Pasolini, qui tient dans ses bras, tel une Pietà, son propre corps. Et il va coller cette affiche sur tous les lieux qu'a fréquenté Pasolini. Et bien sûr, cette affiche interpelle le public, les passants. Et là, le documentaire, justement, et ça donne toute la force de ce documentaire, nous rend compte des réactions de ces gens. Et certaines réactions sont absolument extraordinaires. Extraordinaires. On ne s'attendrait pas à entendre de tels propos dans la bouche de tels gens. Voilà.
Voilà, et peut-être, moi je dirais bien un mot aussi de Anarita Zambrano, qui est une réalisatrice qui travaille en France, qui a écrit un livre, qui a fait un film s'inspirant de l'histoire de Battisti, vous savez, cet homme qui a fait des attentats assez sanglants en Italie et qui est parti se réfugier en France, qui a été protégé un temps par Mitterrand, qui est devenu professeur à l'université, qui a écrit un certain nombre de livres et puis finalement après Mitterrand et après un certain nombre d'autres attentats en Italie, l'Italie a souhaité qu'il soit extradé, donc voilà, qui a un peu compliqué sa vie. Alors voilà, Anita Zambrano, elle a fait un film qui s'appelle Après la guerre et qui s'inspire de cette histoire. Et je la signale parce que elle a eu une aide à l'écriture par Cyclique, donc la région Centre. Donc voilà, on est très content de l'accueillir à Tours. Elle viendra le dimanche pour présenter son film. De même que le dimanche, nous aurons aussi Eduardo Winspear, qu'on aurait tellement aimé recevoir il y a 2-3 ans quand on avait donc programmé ce film à la grâce de Dieu, qui n'a pas pu venir, mais donc il va venir présenter La Vita in Commune dont on a parlé tout à l'heure.
Avec son épouse et actrice.
Oui, avec son épouse et actrice, qui est une excellente actrice, qui est vraiment une excellente actrice. Ça va être je pense, ça va être un grand moment, une belle rencontre. Ça.
Parmi les invités aussi, il y a Jacques Ferrandez, parce que nous allons projeter le film Le Premier Homme, d'après Camus, film de Gianni Amelio. Et vous savez que Jacques Ferrandez a publié beaucoup de livres, de bandes dessinées, enfin d'adaptations en bande dessinée de Camus. Et notamment, au mois de septembre, est sorti un dernier volume sur Le Premier Homme. Donc il sera là, et ça sera intéressant la discussion, puisque c'est la confrontation entre un film, un roman, et une adaptation de bande dessinée.
Alors justement, est-ce qu'on peut revenir sur ce riche programme qui nous attend et qui attend le public pour ce festival? Ça commence le 14 mars avec Amore e Malavita.
Oui, Amour et Mauvaise Vie.
Voilà, c'est mieux en français.
On pourrait le traduire comme ça, même si je pense que le film, s'il sort en France, ce sera pas sous ce titre-là, mais voilà, on peut le traduire comme ça.
En tout cas, ça, c'est la première projection qui lance finalement le festival.
C'est la soirée d'ouverture le mercredi soir.
Et alors après, vous pouvez
Ensuite, on a 4 films tous les jours à Télém. Donc 10h, 14h, 17h et 20h ou 20h30 selon les jours, si on a une soirée spéciale ou pas. Et puis, en plus de ça, on a des films au studio et au CGR.
Oui, il y a plusieurs lieux.
Donc il va falloir faire des choix, parce qu'il y a des moments où on ne pourra pas tout voir. Donc il y a certains films qui sont projetés deux fois. Tous les films en compétition sont projetés deux fois. Une fois à Télém et une fois au CGR, ou deux fois à Télém, pour ça, au moins l'un d'entre eux. Et puis après, voilà, c'est au studio.
Il y a des séances à Saint-Cyr aussi
Et à Saint-Cyr, tout à fait. Il y a deux séances à l'Escale, absolument. Et il y a même une séance à Pithiviers, j'allais l'oublier. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui va venir conclure finalement le festival? On va parler de la fin de ce festival.
Eh bien, justement, c'est la Vita in Commune avec Eduardo Winspear et son épouse, qui est l'actrice principale du film.
Et on terminera donc sur une fable, sur une utopie.
Sur une utopie.
Oui, un beau message d'espoir. Oui.
On en a bien besoin.
Alors, dernière petite question par rapport à ça, en tout cas par rapport au festival. Est-ce que vous avez déjà pensé la prochaine édition du festival, l'année prochaine, j'imagine, si tout se passe bien? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui est dans les bacs ou auquel vous avez pensé?
Oui, bien sûr, on y a déjà pensé. On n'a pas encore les dates, parce que on a déjà presque les dates, d'ailleurs.
Oui, on a presque les dates, oui.
On a déjà presque les dates, mais oui, on y a déjà pensé. Après, en termes de programmation, on a déjà... je pense que Louis a déjà des idées, et moi, j'en ai aussi. Donc,
ça se construit.
On n'en a pas encore parlé, mais ça va se faire après. Mais oui, on pense déjà à tout ce qu'on va faire mieux pour l'année prochaine, ou tout ce qu'on va plus faire, ou comment on va évoluer, ou voilà, parce qu'on en est là aussi. 5 éditions, c'est vrai que c'est bien, mais il ne faut pas croire que c'est rodé, comme du papier
rodé
à musique.
On réinvente quelque chose.
Et alors, qu'est-ce que vous allez faire de mieux l'année prochaine, pour l'année prochaine?
Déjà, comme je vous le disais, moi j'aimerais beaucoup qu'on ait un prix du public. Voilà, et puis.
Ça, potentiellement, ça peut être instauré en 2019.
Oui, ce serait bien, oui.
Il y a, effectivement, il y a des problèmes aussi d'organisation. Vous savez, un festival, c'est très compliqué, surtout que, c'est un festival qui repose beaucoup sur du bénévolat, il faut quand même le reconnaître, et qui demande donc une forte organisation. Cette organisation est perfectible. Donc, une édition...
Oui, il y a des problèmes d'organisation, mais il y a aussi des problèmes de financement.
Et
parce que, évidemment, il faut toujours aller chercher de l'argent, parce que on ne fait pas que compter sur l'argent public, même si on compte évidemment sur l'argent public, mais on sait bien qu'il est de plus en plus difficile à obtenir. Donc on va chercher aussi de l'argent chez des mécènes privés, des partenaires privés. On a aussi quand même une large part de nos recettes qui est liée à la billetterie. C'est un équilibre aussi à trouver. Donc là, on sait aussi qu'il faut continuer à aller de l'avant, aller chercher des partenaires et encourager les partenaires à nous aider davantage, à nous faire confiance. C'est tout un travail.
Et en termes de programmation, c'est vrai que la programmation se pense longtemps à l'avance. Et dans la programmation, ce qui se met en place progressivement, c'est de faire finalement état de la résonance que ce festival est en train de prendre en Italie. Ce qu'on oublie, c'est que c'est pas quelque chose qui reste à Tours, simplement. En Italie, ça a un grand, une résonance croissante auprès des professionnels, des réalisateurs, et cela, bien sûr, ça a des effets. Si on a fait des prix, puisque vous posiez la question tout à l'heure, c'est aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire accroître cette résonance que l'on peut avoir en Italie. Et grâce à cette résonance, on a accès finalement à un plus large éventail de possibilités en termes d'invités, en termes de films. Voilà, donc si les frères Taviani viennent, c'est venu absolument exceptionnel. C'est le seul endroit où ils iront à l'étranger présenter leurs films, à Tours uniquement.
Donc c'est preuve que finalement...
C'est la grande classe quand même. Hein.
Voilà.
Ils n'iront nulle part ailleurs.
C'est vrai que c'est important de le mentionner et de le préciser. En tout cas, on va le rappeler une dernière fois, ce festival qui commence donc le 14 mars avec une soirée d'ouverture et la projection du film Amore e Malavita.
Oui, voilà.
J'ai fait des programmes.
Comédie musicale.
voilà, ça sera à la salle Télém à 20h et à l'Escale de Saint-Cyr, parce qu'il y a deux projections, hein, pour être précis, le jeudi 15 mars, donc le lendemain à 20h30. Voilà, ça c'est pour les deux projections de ce film et évidemment une programmation riche que vous pouvez retrouver sur le site www.viva-il-cinema.com. Voilà.
C'est ça.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci.
Merci à vous, Louise Dorazio et Agnès Torrens, d'être venus dans le studio de Radio Campus Tours. Et merci à toi, Solène, aussi pour avoir participé et testé le quiz avant nos invités.
Voilà. Grazie.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.